Bienvenue dans le podcast Hacker News Daily de Brie, je suis Claire Martin.
Et je suis Nicolas Moreau. Au sommaire aujourd'hui, Moonshot AI suspend les nouvelles souscriptions pour son modèle Chimica 3, victime d'une demande qui a dépassé les capacités.
On parlera aussi d'une étude qui interroge notre rapport à l'IA. Les conseils d'une intelligence artificielle nous rendraient-ils moins capables d'admettre que l'on ne sait pas ?
L'Electronic Frontier Foundation publie un guide sur les risques de surveillance, et du côté des modèles, OpenAI réduit la taille de contexte de Codex, tandis qu'Alibaba dévoile un aperçu de Qwen 3 août max. C'est parti.
Moonshot AI a suspendu les nouvelles souscriptions pour son modèle Chimica 3. L'entreprise l'a annoncé elle-même dans un tweet, en expliquant que la demande avait tout simplement dépassé la capacité disponible.
Et ce qui est frappant, c'est que cette ruée ne s'explique pas par un prix cassé. Un intervenant sur Hacker News fait remarquer que Chimica 3 est plus onéreux que la plupart des autres modèles chinois. Ce n'est donc pas un simple report vers une option moins chère.
C'est bien un engouement pour les performances qui semble motiver cette vague de souscriptions. Le même intervenant ajoute d'ailleurs, et je cite l'esprit de son commentaire, que ces labos américains deviennent probablement assez nerveux.
Sur la qualité même du modèle, un autre commentateur de Hacker News la juge agréablement surprenante. Il précise que Chimica 3 est très bon pour la revue de code et de pull request, ce qui donne une idée concrète du cas d'usage qui attire les utilisateurs.
On a donc un modèle chinois qui, par ses performances perçues et non par son prix, génère une demande telle que son créateur doit temporairement fermer le robinet des inscriptions. Voilà un signal que le paysage de l'IA continue de se reconfigurer à grande vitesse.
Parlons maintenant d'une étude qui interroge notre rapport au conseil de l'IA. Une prépublication déposée sur PsyArchive le 15 juillet 2026 s'intitule « AI advice suppress people's willingness to say I don't know, even when the advice is wrong and accuracy is incentivized ».
Le titre est déjà tout un programme. Les chercheurs ont observé que les participants exposés à des recommandations erronées de l'IA devenaient à la fois moins précis et plus confiants dans leurs réponses.
Et ce, même lorsque l'exactitude était récompensée financièrement. L'incitation monétaire n'a pas suffi à contrer l'effet. Les chercheurs parlent d'un effet de suppression de la réponse « je ne sais pas ».
Le lien de l'article de The Next Web ne pointait pas vers la source originale, mais un commentateur sur Hacker News a partagé le lien direct vers le manuscrit complet sur PsyArchive, ce qui permet d'aller vérifier le détail des résultats.
Un autre commentaire apporte une nuance assez mordante. Même une IA plus intelligente restera probablement conciliante, ce qui amènera les utilisateurs à renforcer avec davantage d'assurance leurs idées les plus stupides. C'est une mise en garde contre la dynamique de confirmation que peut créer un assistant trop poli.
Le mécanisme décrit est simple. L'outil donne une réponse, l'utilisateur l'adopte, et la possibilité même de dire « je ne sais pas » s'efface. Ce n'est pas un problème de précision du modèle, c'est un problème de comportement humain face à l'apparence d'autorité.
On change de registre avec une publication de Electronic Frontier Foundation. Le 26 juillet 2026, l'EFF a mis en ligne un guide de questions-réponses détaillant les risques de surveillance liés aux données de santé reproductive au Texas.
Le document s'appuie sur un cas concret rapporté par l'organisation. En mai précédent, un bureau du shérif texan a fouillé les données de plus de 83 000 caméras de lecture automatique de plaques d'immatriculation pour localiser une femme soupçonnée de gérer elle-même un avortement.
C'est un chiffre qui donne le vertige. 83 000 caméras consultées pour traquer une seule personne. L'EFF utilise ce cas pour illustrer comment les forces de l'ordre de l'État exploitent des équipements de surveillance à grande portée afin de faire appliquer les restrictions sur l'avortement.
L'objectif affiché de ce guide, c'est d'informer les Texans de leurs droits face à cette collecte massive d'informations. L'organisation part d'un cas réel et documenté pour montrer l'ampleur de ce qui est techniquement possible et déjà pratiqué.
La lecture automatique des plaques d'immatriculation est souvent présentée comme un outil de police routière ou de lutte contre la criminalité. Ce que révèle l'EFF, c'est son détournement vers la surveillance reproductive, un usage qui dépasse largement le cadre initial.
Terminons avec une étude qui fait le lien entre forte consommation de télévision et structures cérébrales plus petites. Les résultats sont publiés sur le site de l'USC Dornsif.
Un point méthodologique important, souligné dans un commentaire sur Hacker News qui cite l'étude. Les mesures du cerveau ont été réalisées une seule fois, à l'occasion d'une cinquième visite de suivi. Aucune mesure préalable n'est mentionnée, ce qui empêche d'établir une évolution dans le temps.
C'est la distinction classique entre corrélation et causalité. Un utilisateur de la plateforme rappelle qu'il est possible que des déficits cognitifs préexistants influencent l'habitude télévisuelle plutôt que l'inverse.
Un autre commentateur juge que, quoi qu'il en soit, cette association reste un mauvais signal pour la pratique. Le terme familier de « boîte à idiots » est même évoqué dans la discussion, ce qui montre bien la perception culturelle qui entoure le sujet.
Aucune conclusion causale n'est établie par les chercheurs, et le doute persiste sur le sens du lien observé. Pour y voir plus clair, il faudra guetter la publication de données longitudinales ou d'études mesurant les volumes cérébraux avant et après une exposition prolongée à la télévision.
En attendant, ce que l'on retient, c'est une association statistique entre beaucoup de télévisions et des structures cérébrales plus petites, mesurées à un instant T, sans qu'on puisse dire aujourd'hui ce qui cause quoi.
OpenAI a réduit la taille de contexte du modèle Codex. On passe de 372 000 tokens à 272 000 tokens. Le changement est visible directement sur le dépôt GitHub Codex via une pull request.
Et sur Hacker News, un commentateur qui suit le sujet, Danny Blav, renvoie vers un tweet de Thibault. Ce tweet donnait une explication au moment de l'annonce.
Petite précision importante, rapportée par le commentateur MPL, ce tweet est une réponse non officielle et Thibault a lui-même apporté une correction dans une réponse ultérieure.
La discussion ne s'arrête pas là. Le commentateur Amjuri pose une question intéressante. Peut-on garder la même longueur de trajectoire globale entre différents niveaux d'efforts de raisonnement?
Et Chaos Émergent répond qu'il s'agit probablement d'un exemple illustratif. Thibault garderait tous les autres facteurs fixes sans que cela reflète une trajectoire réelle parfaite. À prendre avec précaution, donc.
Alibaba dévoile un aperçu du modèle Qwen 3 Zoot Max. Un volume massif annoncé, 2,4 billions de paramètres, et le modèle est présenté comme étant en évolution continue.
Aucune page d'annonce dédiée n'a été repérée pour le moment. Le site affiche une bannière qui renvoie vers la page de tarification des forfaits par jeton, et à ce stade, le modèle semble réservé aux abonnés.
Un détail pratique, un utilisateur rapporte l'avoir trouvé disponible dans l'application iOS, qu'il soit connecté ou non à un compte. La disponibilité paraît donc assez fluctuante.
Sur le plan du codage, le retour d'expérience est nettement plus sévère. Un utilisateur qui a testé Qwen 3 juillet Pro quotidiennement pendant un mois le juge tout simplement inutilisable.
Son constat, une perte de temps, des boucles bloquées, une incapacité à déboguer. Et il ajoute que le tout est jugé très coûteux comparé à DeepSeek V4 Pro. Un écart d'expérience qui donne à réfléchir.
Un ingénieur en fiabilité de site raconte une aventure peu ordinaire. Sa famille a fait l'acquisition d'un bowling abandonné de 8 pistes dans une petite ville rurale du Midwest américain. Il décrit l'endroit comme un désert de loisirs.
L'équipement avait été installé en 2008, il avait coûté 6 chiffres à l'époque, et le système remplit des fonctions très automatisées, calcul de la vitesse et de la trajectoire, détection des quilles par caméra avec reconnaissance d'objets et trigonométrie embarquée.
Il gère aussi les fautes, les animations, la machine à poser les quilles et le retour de boule, un système complet. Mais l'auteur précise que le bâtiment souffre de fuites en toiture et de surtension électrique.
Et le matériel, vieux de 70 ans, ne fonctionne toujours pas parfaitement. Remplacer le système par du neuf coûterait l'équivalent d'un chariot élévateur, selon ses mots.
Alors il a choisi une autre voie. Son titre l'annonce, il a remplacé un système évalué à 120 000 $ avec des microcontrôleurs ESP32, le coût total 1 600 $. Une différence spectaculaire.
Le dernier brevet couvrant MP4 par 2 vient d'expirer. Les brevets américains et européens sur cette norme étaient déjà tombés, mais il en restait un actif au Brésil. Il a expiré aujourd'hui.
Cette norme, c'est celle qui sous-tend les codecs XVID et DivX, deux noms qui ont marqué l'histoire de la vidéo compressée.
Un point intéressant, Via Licensing listait ce même brevet brésilien comme essentiel à plusieurs codecs MPEG ultérieurs. AVC H264, HEVC H265, VVC H266 et aussi VC1.
Alors, est-ce que ces codecs plus récents deviennent libres pour autant? Un commentateur apporte une précision importante. L'ouverture complète d'un codec dépend de l'expiration du dernier brevet le concernant, pas du premier. Ce brevet brésilien n'était qu'une pièce du puzzle. Un utilisateur a raconté son expérience avec la version gratuite d'une formation Perforce. Très vite, il a soupçonné une narration générée par intelligence artificielle comparable à une synthèse vocale de style ChatGPT.
Il a relevé trois anomalies précises. D'abord, la voix n'est pas cohérente d'une vidéo à l'autre. Ensuite, ponctuellement, la voix change de profil et ressemble à ce qu'il décrit comme un démon.
Et surtout, il y a des pauses étranges et absurdes. Il donne deux exemples. « This is a very useful feature et looking at your issues that you are raising to them. » Il compare le résultat à la lecture d'un poème de Charles Bukowski.
Son constat est net, une fois qu'on remarque ces bizarreries, elles deviennent impossibles à ignorer, et cela remet en cause la qualité perçue du produit.
Le contexte est important. Perforce facture ses formations 500 $. Pour un utilisateur, un tarif aussi élevé rend ses défauts de narration automatisée difficiles à accepter.
Claude Code embarque désormais Bone réécrit en Ruste. C'est Simon Willison qui a partagé cette observation.
La version de Bone livrée dans Claude Code s'affiche comme Bone V1.4.0 pour macOS ARM 64. Or, la dernière version publique disponible sur GitHub est la V1.3.14, publiée le 12 mai.
Ce décalage suggère qu'Anthropic expédie un aperçu d'une version de Bune qui n'a pas encore été publiée officiellement.
Par ailleurs, la gouvernance du projet Bune soulève des questions. Un commentateur note qu'il n'existe aucun document décrivant sa structure de décision.
Tout semble se résumer à ce que Jared, le créateur de Boone, accepte ou refuse chaque semaine, une gouvernance qui paraît très centralisée.
Minecraft Java Edition passe à SDL3 avec sa version de développement 26 mars Snapshot 4. Les notes officielles signalent plusieurs problèmes.
Deux bugs sont documentés. Sous Windows, le mode plein écran exclusif peut faire planter le jeu, surtout en présence de plusieurs moniteurs.
Et sous Wayland, l'entrée dans ce même mode plein écran exclusif provoque également un plantage.
Sur Hacker News, des commentateurs estiment qu'il s'agit du genre de bug bloquant qui retarde normalement une snapshot. Ils espèrent une correction avant la sortie définitive.
Un commentaire rappelle un point important. Minecraft utilise depuis longtemps le plein écran sans bordure par défaut, à moins de le configurer autrement. Et de nombreuses plateformes et services abandonnent le plein écran exclusif depuis une décennie.
Un autre commentaire ajoute une raison pratique. Tout jeu souvent diffusé en streaming ou enregistré a intérêt à éviter le mode plein écran exclusif car il coexiste mal avec les autres applications.
Un développeur partagé sous le nom Chip Winberger a raconté les leçons tirées de la vente de 2500 enregistreurs MIDI.
Le produit comprend une application d'environ 85 000 lignes de code. Elle couvre la connectivité des appareils, la configuration initiale, la synchronisation, la lecture et la visualisation MIDI, la gestion de bibliothèques, l'export audio et vidéo, ainsi que les workflows de mise à jour over the air.
Le micro-logiciel, lui, totalise environ 110 000 lignes de code. Il prend en charge l'enregistrement et le streaming MIDI, l'USB, le Bluetooth, le Wi-Fi, des API web, le stockage, les mises à jour OTA, le diagnostic, la sécurité, les périphériques, le provisionnement et une interface web embarquée.
La leçon principale de l'auteur tient en une phrase simple. Un produit complet exige beaucoup de code, même pour ce qui peut sembler être un simple enregistreur MIDI.
Commençons avec un retour d'expérience pratique. Un membre de Hacker News, Rafał Opilowski, raconte son projet de laboratoire maison. Il a voulu remplacer le routeur de son fournisseur d'accès par un équipement Mikrotik.
Et il le dit lui-même, l'étape a été difficile. Mikrotik, c'est puissant, mais ça suppose qu'on maîtrise déjà le sujet.
C'est exactement ce que souligne un autre participant, Zulux. Pour lui, l'ère Mikrotik arrive maintenant, justement parce que ses équipements demandent des connaissances pointues, sauf que, dit-il, son LLM a tout changé.
Ah, c'est intéressant. Il donne un exemple concret ?
Oui. Monter des VPN site à site, tu as pris 15 minutes avec son LLM au lieu d'une journée entière de recherche.
15 minutes au lieu d'une journée, ce n'est pas un petit gain à la marge, c'est un changement d'échelle.
Et Rafał Opilowski confirme que les LLM aident. Il précise qu'un agent l'a assisté pour chercher dans des forums le fonctionnement précis de son fournisseur d'accès.
Donc on voit émerger un usage très concret, le LLM comme traducteur de documentation technique éparse pour des équipements qui restent exigeants.
Exigeants, mais soudainement plus accessibles. C'est bien le point de Zulux, la barrière de maîtrise ne disparaît pas, mais Lassane la franchit plus vite.
Changeons de registre. Un projet de jeu vidéo en basique pour Commodore 64 propose un dungeon crawler intitulé Goblin Attack.
C'est la 8e partie d'une série documentée par le site Retro Game Coders. Un commentateur signale tout de même un problème. La vidéo YouTube associée est perturbée par l'insertion incessante de clips de mèmes.
Un inconvénient de forme, donc. Sur le fond, un échange ironique dans la discussion s'interroge sur le sort des gobelins et sur la posture de l'aventurier loyal bon.
Dans un tout autre domaine, la communauté psychédélique.communite revient sur ce qu'elle appelle le méga bad trip de Terence McKenna.
Un article qui a d'ailleurs eu un effet collatéral inattendu. Le serveur a été paralysé par ce que les participants nomment l'égrégore de Hacker News. Une copie reste accessible via la Wayback Machine.
La discussion est intéressante. Plusieurs intervenants soulignent l'importance d'une pratique spirituelle pour absorber ce qu'ils appellent le choc ontologique des psychédéliques.
Ce qui suscite un débat. Un internaute objecte que cela revient à dire que les athées en seraient incapables.
Et un autre précise alors que le terme spirituel n'exclut pas les athées. Il peut renvoyer à l'esprit humain ou à des cadres comme l'interprétation des mondes multiples.
On termine par une note botanique. Un article de la BBC rapporte l'apparition de bananiers dans un jardin de Rayleigh.
Le témoin constate que ces Musa bajous ne sont pas comestibles. Il décrit la texture comme une bouche pleine de roulements à billes avec une demi-cuillère à café de banane.
Les commentateurs en profitent pour rappeler l'histoire de la banane. Avant l'intervention humaine, les bananes étaient petites et truffées de graines. Toutes les bananes modernes descendent par clonage d'un seul plant mutant, découvert il y a des milliers d'années.
Une monoculture extrême, ce qui expose la banane moderne à des menaces comme la maladie de Panama ou d'autres pathogènes. Une vulnérabilité qui n'est pas anecdotique quand on sait que ce fruit est un aliment de base pour des centaines de millions de personnes. Et voilà qui nous amène à la fin de ce tour d'horizon. On a couvert pas mal de terrain aujourd'hui, entre les modèles qui cartonnent au point de devoir fermer les inscriptions et ceux qui rétrécissent discrètement.
Oui, le fil rouge, c'est peut-être cette tension entre l'emballement et la prudence. Moonshot AI, qui suspend les souscriptions pour Kimika 3, ça rappelle à quel point la demande peut dépasser les capacités, même pour les acteurs les plus solides.
Et pendant ce temps-là, OpenAI réduit la taille de contexte de codex de 372 000 à 272 000 tokens. Un ajustement discret, mais qui en dit long sur les arbitrages entre performance et coût.
Côté recherche, l'étude sur l'IA qui décourage les gens de dire « je ne sais pas » mérite vraiment qu'on s'y arrête. C'est un effet subtil mais profond sur notre rapport à la connaissance. Et la prépublication de l'EFF sur les risques de surveillance complète bien ce tableau.
On a aussi vu Alibaba dévoiler Qwen 3 août max avec ses 2,4 billions de paramètres, pendant que Minecraft adopte SDL3 dans sa dernière snapshot. Des échelles très différentes, mais une même dynamique d'évolution technique.
Et les histoires plus personnelles nous rappellent que derrière la tech, il y a des gens. Cet SRE qui achète un bus scolaire en famille, le développeur qui vend 2500 enregistreurs MIDI, ou encore ce projet de dungeon crawler sur Commodore 64.
Bref, un épisode riche, entre méga-modèles, questions éthiques et rappel que l'innovation se fait à toutes les échelles. On se retrouve très vite pour la suite. Merci de nous avoir écoutés.